Le labo.
Le Toucan donne la parole à votre métropole.
Culture, sport,
échange,
actualité.
Prenez de la hauteur sur l'info.
De 17h à 18h30.
Du mardi au vendredi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Labo. C'est Paul Antenne, votre animateur préféré. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre et nous sommes la veille d'Halloween. Et alors que toutes les décorations sont mises depuis un moment dans l'enceinte des studios, le jour fatidique, c'est demain. Ne manquez surtout pas notre émission horreur pour le 31 qui vous fera sans doute frissonner avant cette journée d'Halloween. Aujourd'hui, pour m'accompagner à la tech, nous avons mon cher Ben. Comment tu vas, Ben ?
Ça va super, et toi comment tu vas ?
Ça va super pour cette émission. Dans le programme de cette journée, vous pourrez retrouver le Sortez les Popcorn animé par Noah qui nous parlera aujourd'hui de 10 000 à l'heure, qui est un film sur la biographie de Lee Miller, une photographe de guerre qui est intervenue durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, vous retrouverez l'interview de Marie qui est partie à la rencontre de Georges Malamud. Mais de quoi parle cette interview, Marie ?
Alors, je vous en dis pas beaucoup pour l'instant parce que vous le découvrirez plus tard. Mais en gros, dans cette interview, vous allez découvrir un peu la ville mystérieuse de Caen, QAN, qui se trouve donc sur un site internet. Donc c'est une ville virtuelle, mais vous en saurez plus tout à l'heure.
Puis vous retrouverez l'interview de Marine sur le cyclocross de la Riva Bella de Ouistreham qui a lieu ce week-end. Vous pourrez en apprendre plus sur cette célèbre course côtière du Calvados. Et enfin, vous retrouverez votre émission quotidienne du Zoom sur qui vous sera aujourd'hui animée par Alex et Anaïs. Et le sujet portera sur l'IA dans le cinéma et les problèmes de droits d'auteur que tout cela peut engendrer. Mais tout de suite, passons au Flash Info. En raison de fortes pluies, l'alerte rouge météorologique a été déclarée dans la région de Valence en Espagne. C'est les cadavres de 62 personnes qui ont été récupérées après des fortes crues, ont annoncé mercredi 30 octobre les services de secours. D'autres régions sont touchées telles que l'Andalousie et la Castille-La Manche. Le chef du gouvernement régional s'est exprimé au sujet des inondations avec, je cite, « Nous faisons face à une situation sans précédent que personne n'a encore jamais vue ». National, surpopulation carcérale. La France a battu un nouveau record s'élevant à 79 631 détenus. La France figure parmi les pays européens avec la plus grosse population carcérale. En un an, ce sont près de 5300 personnes supplémentaires qui ont été incarcérées dans les prisons françaises. D'après le ministère de la Justice, environ 3800 détenus sont contraints de dormir sur un matelas au sol car les prisons de France ne comptent que 62 279 places opérationnelles. Local maintenant, une nouvelle candidature a été déposée pour les plages du débarquement, figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il nous faudra attendre encore 2 ans car ce rêve de la Normandie est en attente depuis 2008. En 2017, ce rêve aurait bien pu être exaucé car l'initiative avait été soutenue par le célèbre milliardaire américain Christopher Forbes, fondateur du média Forbes. Mais cela n'a malheureusement rien changé, les Normands devront donc attendre encore un peu avant de voir leur rêve se réaliser. Point de météo. Votre soirée sera couverte et la température descendra à 12 degrés. Pour votre journée de demain, le soleil fera enfin son retour avec une maximale à 18 degrés. La température ressentie sera plus douce pour le trafic, sera plus douce que la température réelle. Point trafic, le périph nord est bouché de Porte de Paris jusqu'à Hérouville-Saint-Clair et encore des travaux sur la route Henri Chéron, là où moi et mon collègue Lucas sont embêtés toute la nuit. Tout de suite, Noah va revenir sur un passé tragique. En effet, il va retourner à la Seconde Guerre mondiale, là où Lee Miller, une photographe de guerre, va révéler les atrocités de la guerre au grand public.
Chut ! Sortez les pop-corn !
Aujourd'hui, on prend la machine à remonter le temps et on retourne au temps tragique de la Seconde Guerre mondiale. Lee Miller, une ex-mannequin pour Vogue et muse de Man Ray, elle devint photographe de guerre. Voici le synopsis du film. L'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre, partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle a, par son courage et son refus de convention, changer la façon de voir le monde. Comme on l'a vu précédemment, Lee Miller est au début de sa carrière et une simple mannequin. En faisant un voyage à Paris, elle fera la rencontre de Man Ray, un photographe dont elle deviendra la maîtresse et l'assistante. En 1930, elle crée son atelier de photographie. Elle reprendra les mêmes inspirations que lui, donc les images signées Man Ray sont donc prises par Lee Miller. Après avoir rompu avec Man Ray, elle revient à New York où elle fonde son propre studio, assisté d'un de ses frères, Eric. Elle épousera Aziz Elouy Bey, un homme à faire égyptien, et ils s'installeront au Caire où Lee produira la célèbre photo Portrait of Space. En 1940, elle devient correspondante de guerre dans l'armée américaine sur les terrains de guerre. De 1944 à 1946, elle fait équipe avec David Sherman, photographe et magazine Life, mais aussi son amant de guerre. Elle suit la 83e division depuis le débarquement en France. En les suivant, elle traversera de nombreux pays en partant de la France, en passant par l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Elle réussit à témoigner de la guerre par ses photos et ses textes inscrits dessus. L'une de ses photographies les plus connues est celle de deux soldats ouvrant en pleine clarté un camion rempli de cadavres. Le magazine Vogue publiera les images deux mois plus tard. L'article portera le nom « Believe it », qui veut dire « croyez-le ». Le film a été bien accueilli par la critique. D'après la presse, le film est un biopic, mais qui est un peu relevé par la performance de Kate Winslet, qui est l'actrice principale. Cela reste quand même un bon film pour une première. Car oui, c'est le premier film de Hélène Kuras. Les internautes, de leur côté, ont bien apprécié. Pour eux, c'est un biopic saisissant qui a permis de revenir sur les événements de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les avis restent tout de même assez contrastés. En parlant de la performance de Kate Winslet, elle a été interviewée par le média Le Point. C'est vraiment l'histoire de Lee Miller et son courage qui a inspiré Kate Winslet dans ce rôle. C'était l'occasion pour elle de transmettre aux spectateurs l'histoire méconnue de cette femme qui a côtoyé l'histoire. Malgré son intérêt pour l'histoire de Lee Miller, Kate Winslet a eu du mal à faire produire son biopic. Elle déclare « On me demandait pourquoi je m'intéressais tant à elle. Je me semblais incroyable que certains hommes la considèrent comme une personne peu attractive simplement parce qu'elle ne correspondait pas à certains critères de beauté et luttait contre l'alcoolisme. » Mais pour vous faire une idée, le mieux c'est encore d'aller voir le film. En parlant d'aller voir des films à Caen, on a pas mal d'événements en ce moment, et du coup c'est parti pour l'actu des ciné. Alors au Cinéma Luxe, vous pouvez retrouver jusqu'au 9 novembre une programmation sur le film sur le thème du Galio. Alors c'est quoi le Galio ? Eh ben c'est un type de film d'exploitation principalement italien. Il y a entre le cinéma policier, le cinéma d'horreur et le cinéma érotique. Dans le prochain jour, il y a deux films que vous pourrez aller voir. Samedi, le 2 novembre, vous pourrez aller voir Le Sang des Innocents de Dario Argento. Puis le 9 novembre, L'étrange couleur des larmes de ton corps d'Hélène Catet et Bruno Forzani. Après, vous n'êtes pas sans savoir que demain, ce sera Halloween. Et du coup, c'est l'occasion de se prendre une petite dose de frisson. Ça tombe bien, puisqu'à partir de demain soir au Café des Images, vous pourrez trouver La Nuit de l'Horreur. À la carte, 6 films, des blind tests, du maquillage, des quiz, etc. N'hésitez pas à venir déguiser hein, d'ailleurs. Ça commencera à partir de 19h au Café des Images. En termes de programmation, il y aura Ring de Hideo Nakata, Dracula de Francis Ford, When Evil Lurks de Damien Rugna et Shaun of the Dead d'Edgar Wright. Un beau programme qui n'attend que vous, chers auditeurs.
Merci à Noah pour ce super sortez les pop-corn, en espérant qu'il vous aura donné envie d'aller voir ce film, qui est à la fois touchant et qui nous concerne nous encore plus, habitants du Calvados, car nous étions à cette époque les plus exposés à ce conflit. Souvent, par expérience personnelle, quand je suis au cinéma, je me sens comme hors du temps, car je profite pendant quelques heures d'un film. Mais The Weeknd a un avis différent du mien, je pense, car dans sa musique Out of Time, il nous parle de à quel point il s'en sort. Il se sent hors du temps lorsqu'il pense de tous ses problèmes sentimentaux. Et on va le laisser nous le raconter tout ça, tout de suite sur Radio Toucan 91.9 FM. The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I breathe. Now, remember when I held you? passer un moment hors du temps grâce au morceau Out of Time de The Weeknd, issu de son dernier album Down FM. Cet album est basé sur un style radiophonique des années 90, là où il a créé sa propre radio. Un album qui vous est bien évidemment recommandé par la certification Paul. Et oui, j'ai ma propre certification. Ne cherchez pas sur internet, il n'y a que moi qui sais qu'elle existe. Et maintenant, je vais vous laisser avec une interview de Marie, qui a eu l'honneur d'interroger Georges Malamud, gardien de la ville de Caen. Caen, Q-U-A-N. Mais quelle est cette ville? Eh bien, je vous explique. Cette ville se trouve sur le site internet Caen, univers page. Sur ce site, vous pouvez visiter les rues de la ville virtuelle, y laisser des textes et découvrir les textes laissés par les autres promeneurs. C'est en premier lieu un projet d'écriture, mais aussi de poésie et de lecture. Quel que soit votre âge, votre situation, tout est anonyme. Caen est un projet militant pour redonner à Internet des dimensions qu'il a un peu perdu depuis l'irruption des ogres commerciaux et de la pub. Caen est donc un espace dédié à l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut donc apporter à l'écriture aux gens ?
J'aime beaucoup la lecture. Je pense que pour bien lire, il faut écrire aussi un petit peu. Pour bien écrire, il faut lire. Les gens n'osent pas écrire en général. Ils ont peur pour des tas de raisons. Et puis parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et de moments d'écriture en ce moment. Mais moi, je pense que l'écriture est vraiment quelque chose d'important pour exprimer. La voix aussi à la radio, évidemment. Mais l'écriture peut être vraiment un truc à creuser.
Donc quand c'est un site d'écriture participative, la volonté était de créer un lien entre les utilisateurs.
Alors c'est pas un réseau social au sens où on le connaît tous, où on a un pseudo, on se crée, on se répond, on s'écrit des commentaires, des likes et tout ce que vous voulez. D'abord c'est totalement anonyme, c'est-à-dire que quelqu'un poste un texte ou quelqu'un complète un texte dans une des rues de la ville virtuelle de Caen et on sait pas qui le fait, on n'a pas besoin de le savoir. Donc il n'y a pas cette notion de créer un lien individuel. Par contre il y a un lien qui se crée par le texte parce que sur les quelques rues qui existent, on voit des gens qui se répondent, mais ils répondent au texte en fonction du nom de la rue, du texte qui a été posé, peut-être comme un cadavre exquis par exemple, si vous voyez ce que c'est, ou simplement pour compléter. Donc c'est pas une communauté d'individus, c'est une communauté de texte, ce qui est différent.
Comment fonctionne votre site? Qui peut y accéder?
Ben alors c'est un site public, son adresse est toute simple, hein, c'est Caen, Q-A-N, attention à l'orthographe, Q-A-N, il n'y a pas de U, il n'y a pas d'autres orthographes alternatives malgré tout ce qu'on peut penser, caen.univers.page, c'est des domaines que j'ai créés comme ça. Il est donc en accès libre sur tout un tas du téléphone à l'ordinateur, et il est en accès libre gratuit, et gratuit dans tous les sens du terme. C'est presque un acte gratuit. Participer à ça. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas non plus de danger, c'est un espace un peu protégé en sens où il est modéré a priori. Vous savez très bien qu'il y a des trolls partout, il y a des gens qui postent n'importe quoi et des commentaires illégaux ou choquants, etc. Donc là, quand quelqu'un propose d'écrire pour créer une rue ou pour compléter une rue qui existe déjà parce que quelqu'un d'autre l'a créée, moi ce que je fais, c'est que le gardien, moi, en l'occurrence, mais ça pourrait être d'autres, le gardien vérifie que le texte est normal. Moi, je m'occupe pas ni de l'orthographe, ni il y a tellement de niveaux de français différents, ni d'autres formes. Je m'occupe simplement de savoir si le texte n'est pas choquant, et il est publié. Donc, ça marche très très bien. Il y a une carte, c'est une carte muette, hein, un peu comme les vieilles cartes qu'il y avait dans les écoles. On clique sur une artère qui n'a pas de nom, ou une artère qui a un nom, et puis on la crée, on lui donne un nom, ou alors on en complète une qui existe déjà, puis on n'y revient pas, on laisse des traces.
Qu'est-ce qu'on peut y écrire ?
De tout. Alors pour le moment, évidemment, il n'y a pas des milliers de rues. Hein. Le site va évoluer. Pour moi, il n'y a qu'un quartier de la grande ville de Caen qui a été mis en ligne. J'en ai déjà deux ou trois en préparation, mais je les mettrai que lorsque ceux-là auront été suffisamment, on va dire, remplis. Mais il y a des gens qui ont mis des choses très très courtes, une ligne, d'autres trois, quatre lignes, qui se sont répondues avec presque des... Alors je peux même pas dire des dialogues, parce que ça peut être à la limite la même personne qui se parle à elle-même. Ça peut être deux personnes, trois. Ça peut être des textes de plusieurs paragraphes. Il y en a deux qui ont mis des poèmes. Il y en a un qui a mis une petite nouvelle, ou deux qui ont mis des petites nouvelles. Mais ça peut être des textes en général de 4-5 lignes. Comme on le sent. Je sais pas, vous, par exemple, vous avez envie d'écrire quelque chose de simple, sans, vous écrivez vos quelques lignes et puis voilà.
Le site s'ouvre sur la carte d'une ville qu'on pourrait presque prendre pour Caen. Pourquoi utiliser comme support une ville donc fictive ?
Ben, je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'endroits sur l'internet où on peut essayer d'amener les gens à écrire. Bon, il y a tous les réseaux sociaux où on écrit, mais il y a même du SMS au site d'aide à des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Mais c'est souvent en dehors de tout. Moi, je trouve que créer une ville, la peupler, se l'approprier en donnant des noms à des rues comme une grande carte muette et faire qu'à travers cette appropriation, petit à petit, on a envie d'y revenir, voir ce qu'elle devient. En gros, c'est un projet collaboratif où on construit ensemble une ville. On la peuple de mots. Et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir pris ce support, mais on pourrait imaginer que sur la même idée, d'autres personnes qui ont envie, d'ailleurs je peux les aider s'ils le veulent, hein, ça serait de prendre un pays ou une vache, par exemple, de prendre une vache et de dessiner des bouts de parties. On peut le faire avec n'importe quel objet, mais en tout cas, je trouve que la métaphore de la ville apporte quelque chose de vraiment particulier. Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une ville, on sait tous ce qu'on aimerait que soit une ville, ce qu'on aimerait qu'elle soit pas. Là, on peut la dessiner comme on veut.
Pour écrire sur Caen, il faut se munir d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une tablette. Mais pourquoi avoir voulu créer un site internet pour permettre aux gens d'écrire ?
Ben d'abord, alors ça c'est la question. Moi je trouve que l'internet c'est un peu vieux l'internet. Vous étiez peut-être pas né quand il est vraiment né, il y a très longtemps. Quand le web est né, c'était en 1993, il y a maintenant 30 ans. Et à l'époque, il était quasiment peuplé que de textes. Il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas l'interaction, etc. Donc je pense que la notion de texte est importante, l'hypertexte comme on dit, c'est quelque chose d'important. Et l'idée d'utiliser l'internet pour faire des mots et pas seulement de la petite vidéo, du TikTok, du truc interactif ou du message très court ou du commentaire de hater sur n'importe quel forum, c'est intéressant parce que ça permet de redonner de la créativité à l'internet en rappelant que finalement avec n'importe quel outil on peut créer des choses simples, hein. C'est pas un truc compliqué, la ville de Caen c'est un site ringard, il est très simple, il a pas de trucs qui bougent dans tous les sens, il y a pas de fonctionnalités compliquées, et je pense que justement c'est un peu ça qui peut amener les gens à le faire. Et pourquoi l'internet, je pense que il y a d'autres solutions de travailler en dehors de l'internet, mais c'est une chose magnifique. L'internet, c'est magnifique. C'est peut-être un peu dévoyé dans beaucoup d'exemples qu'on voit. C'est peut-être une manière de le réenchanter à une toute petite échelle microscopique que personne ne voit, mais c'est pas grave.
Merci à Marie pour cette superbe interview. Alors, si votre âme poétique vous parle, je vous invite à aller sur le site Caen. Vous pourrez écrire vos plus beaux alexandrins. Ce samedi 2 novembre se tiendra la course de cyclocross de Ouistreham. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que le cyclocross ? Et c'est pour cette raison que Marine est allée interroger Mehdi Dubosc, président du comité d'organisation de Riva Bella Cross. Ensemble, ils reviendront sur l'essor du cyclisme en Normandie.
Vous organisez la Riva Bella Cross ce samedi 2 novembre à Ouistreham. C'est une course de cyclocross labellisée par l'Union Cycliste Internationale, ou communément appelée l'UCI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste le cyclocross ?
Alors le cyclocross est une discipline à mi-chemin, on va dire, entre la pratique de la route qu'on peut connaître comme au Tour de France et le VTT ou le gravel maintenant qui commence à se démocratiser. Donc c'est avec un vélo qui ressemble à un vélo de route où on met des boyaux dessus, parce que des boyaux pour les permettre de passer dans les dévers plus facilement, on pourra en discuter un petit peu plus. Mais donc c'est à mi-chemin entre la route et le VTT, et on trouve beaucoup de coureurs du VTT et de la route sur ces disciplines.
En décembre 2023, à Flamanville, dans la Manche, il y a eu une étape de la Coupe du Monde et une étape de la Coupe de France de cyclocross. Alors, qu'est-ce qui explique l'engouement en Normandie pour cette discipline ?
L'engouement en Normandie pour cette discipline est assez simple, c'est qu'effectivement, on a des coureurs. Après, dans le cas de Riva Bella Cross, l'historique est un peu différent parce qu'on a était parti sur un projet au départ de faire un beach VTT, beach race en VTT au départ quand je faisais partie de la commission régionale de VTT, et on avait pensé à cette idée là et puis l'engouement est venu que le fiston a commencé à faire du cyclocross, notamment au niveau du pôle espoir. Après le Covid, il y a eu une parenthèse du Covid, on s'est dit, en fait, c'est franchement un cyclocross qu'il faut faire à Ouistreham, parce que l'idée est venue tout simplement de, vu qu'il y a la Normandie Beach Race, qui est une course de démonstration de véhicules sur la plage, je me suis dit, on peut forcément avoir accès avec des vélos, donc on va se rapprocher de la municipalité d'Ouistreham pour s'organiser et voir comment on peut faire pour monter un tel projet. L'engouement est assez simple à Ouistreham, c'est qu'on a un site unique en France. On n'a pas de cyclocross, il n'existe pas de cyclocross, il n'existe plus. Il y a eu dans le passé, on vendait, mais il n'existe plus de cyclocross de cette envergure en France. Et d'autant plus sur les plages du débarquement où nous, on n'a pas simplement que du sport, on a aussi l'histoire, le développement de la région et ainsi de suite. Donc en plus, la particularité d'être dans une station balnéaire.
Et si on revient justement sur la Rivabella Cross, depuis quand exactement elle existe? Donc depuis le Covid, c'est ça?
La première édition qui a été qui s'appelait pas Rivabella Cross, qui était organisée conjointement avec le club de VTT d'Hérouville-Saint-Clair, Vélo Jeune Aventure, qui a été une Coupe de Normandie. Ça a été la première édition, a été appelée une Coupe de Normandie organisée purement par le Vélo Jeune Aventure. Donc c'était en octobre 2022. Le but du jeu, c'était effectivement de rôder et voir ce qu'on était capable de faire comme circuit. Et après, le Rivabella Cross est né l'année suivante. Et la première édition a eu lieu en 2023 parce qu'on avait en tête initialement de faire une Coupe de France en 2024 pour le 80e anniversaire du débarquement, parce que c'était une date forcément marquée. Ça n'a pas été fait principalement parce qu'il fallait qu'on se structure. Faut qu'on se structure au sein de Ouistreham, qu'on se structure au niveau des bénévoles. C'est pour ça qu'on est reparti cette année pour une deuxième édition de Rivabella Cross et une troisième organisation de cyclocross. Toujours dans le but de roder notre organisation pour essayer de franchir les différentes étapes, surtout avec le potentiel que l'on a sur cet environnement.
Qu'est-ce qui a permis à cette course d'être labellisée UCI, donc internationale?
On a franchi directement, on s'est rapproché directement de l'UCI et au travers de la Fédération Française de Cyclisme. On avait vu avec Gabin, mon fils, sur les différentes organisations, et notamment des Coupes de France, que nous, par rapport au circuit qui était proposé, on avait un potentiel. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un UCI C2, qui est effectivement l'équivalent d'une Coupe de France comme il y a eu hier à Nomé, côté de Montbéliard. Et ça nous permettait de roder notre organisation pour pouvoir organiser une Coupe de France et voir plus loin après. Donc on a pris directement, effectivement la marche a été assez haute, on est passé directement d'une Coupe de Normandie régionale à un UCI dans le but de roder l'organisation, sachant qu'on a un potentiel où on a tout à disposition, du sable, de la terre, de la route, sans parler des infrastructures qui sont extraordinaires à Ouistreham. Donc bien évidemment, la municipalité de Ouistreham et monsieur le maire Romain Bray est à fond derrière nous ce projet.
Et ce type de course, il nécessite des aménagements spécifiques, par exemple des escaliers, des planches à sauter. Ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail. Alors comment fonctionne l'organisation de cet événement?
L'organisation de l'événement, en fait, c'est beaucoup de travail en amont. Le comité d'organisation, dont je suis le président, est composé de quelques personnes passionnées autour du cyclisme et un gros apport aussi des services techniques de la ville qui nous aident. La ville de Ouistreham bien évidemment nous soutient financièrement aussi et les services techniques nous permettent notamment de faire privatiser les routes, le boulevard Alfred Thomas qui est devant l'esplanade Dauphy. Et puis après, c'est une question de, on s'appuie sur des partenaires. Là, cette année, par exemple, pour les passerelles, vous faites référence aux passerelles qu'on installe derrière le mémorial et qui vont encore être installées cette année. En fait, on s'appuie sur des partenaires qui nous aident à monter ces passerelles. Et le circuit a été aussi dessiné principalement par Gabin, hein, qui au départ de ses expériences de cyclocross, on a été aussi en Belgique cet hiver, on va y retourner cet hiver. Et donc notre édition de l'année dernière, on a eu un rapport de l'UCI bien évidemment, où on a eu des choses, une organisation perfectible. C'est une première organisation au niveau international. Mais quand l'UCI nous écrit qu'on a un potentiel énorme, ça nous encourage à continuer. Et c'est bien pour ça aussi que monsieur le maire et la municipalité de Ouistreham croit beaucoup en ces projets. Et d'autres personnes sont en train de se mettre autour de ce projet pour ne pas griller les étapes, mais aller, on pense, très très haut, parce qu'effectivement, on a un énorme potentiel.
Si vous souhaitez assister à cet événement, le premier départ se fera à 9h15 devant le casino. L'accès est libre et vous pouvez vous positionner sur tout le parcours. Nous remercions Marine pour cette interview qui vous aura sûrement donné une envie d'activité à aller voir ce week-end. Moi qui aime beaucoup le sport, c'est une activité qui peut vraiment me plaire. Peut-être que certains d'entre vous seront motivés par cette activité pour aller la voir. Faisons une petite pause musicale avec le morceau 8 du rappeur Luther, issu de son EP Ami. Sorti en 2023, l'artiste de la scène émergente du rap français proposait 3 singles dans son EP, dont ce morceau qu'on va s'écouter tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Toucan.
Je vais en bunker en bloc d'autopsie. Je serais bien habillé pour mon autopsie. Je veux plus traîner avec des gros prouveurs. Pour ils ont besoin de leur proto. J'aime pas le vrai amour que les sous trop toxiques. Les sous trop toxiques. Je prends des canettes au proxy. Je les partage avec mon ego. Je rêve de tuer le capital et d'une motoski. On t'adresse pas la parole comme les bénévoles. Y'a l'effort qu'ils font tandis que les rénévoles. Et lui se met à gol, donc ils se mettent à coller. Pour briller, ils sont posés à côté. On va casser les codes, t'as juste cassé les. J'ai baillé après, je me suis massé les. Y'avait du brouillard donc j'ai accéléré. C'est pas maman qui a payé mon ACG. Pas très débrouillard, j'étais plutôt trouillard. T'as pas le choix d'avancer si t'es dans le brouillard. J'suis béton puis mes démons je les ébouillard. Père vrai soulard, enfant t'as un vrai. Désolé je suis pas solaire, des caries sur les molaires. Mon gros pif fait se casser de mon visage. J'fais de la musique à mon image, mets des polaires. Pour zébron sur ton rivage. Coup de monter le cassé quand il reste statique. J'pouvais j'remontrer le passé, sous pas triste platine. J'ai ma journée dans triste cabine, t'as pas mis dans un t'es classé. Yes, chaque jour j'me revois à la baisse. J'tiens à personne à part à ma veste. Y'avait personne mais j'ai toujours la sensation d'avoir quelqu'un qui colle. J'ai rajouté les autres et j'ai failli m'y perdre. Dans le miroir je me regarde dans la merde. J'suis le bouc à l'envers dans les rapides qui pégaient. J'pente mes rêves qui s'effacent dans la terre. Si tu le veux t'as juste à mettre. J'veux me casser t'as juste à mettre. La vipère n'a plus qu'à mettre. J't'ai bloqué tu peux plus m'appeler. Même si je voulais tirer j'aurais pas visé. J'suis pas malin, agir avant d'aviser. Les types les plus cistras. C'est souvent ceux qui bandent sur les racisés. C'est fou, j'suis assisté vous kiffez vous. C'est cliché. Je voulais être le gamin stylé qui disait rien, qui sait tout, je suis niqué. J'ai tout plaqué pour faire mon bail, mais je me suis jamais senti aussi seul au monde. Il me reste que Rajmi et son solo monde. Et puis quelques raclos à son side. Qu'est-ce qu'on se les caille, on s'ennuie à la ville. On sait pas ce qu'on va faire dans la vie. Je me couche, je vais nager dans ma bile. Rien à faire, je m'assois, j'ai trop jeté les autres et j'ai failli m'y perdre. Dans le miroir, je me regarde dans la merde. Je suis le bouc à l'envers dans les rapides qui pégaient. Je pense que mes rêves qui s'effacent dans la terre. Si tu le veux, t'as juste à mettre. Je veux me casser, t'as juste à mettre. La vipère n'a plus qu'à mettre, j't'ai bloqué, tu peux plus m'appeler.
Vous venez d'écouter le morceau 8 du rappeur Luther, qui a sorti cette année son projet Exit, sur lequel il teste plein de genres, dont le rock alternatif sur son morceau à l'aide. Mais l'album reste majoritairement tourné vers de l'hyperpop. Maintenant, avec Alex et Anaïs, nous parlerons de l'intelligence artificielle et la place qu'elle prend dans le milieu du cinéma. Y a-t-il des lois ou des régulations ? Comment nous verrons ça tout de suite ?
Zoom sur.
Zoom sur.
Le dossier thématique du Toucan.
Cher auditoris, récemment Robert Downey Jr., l'acteur d'Iron Man, a déclaré dans un podcast qu'il poursuivra en justice tout en dirigeant qui tenterait de créer une IA à partir de lui-même après sa mort. Mais si l'instant il entretient de bons rapports avec la franchise Marvel, il précise que si après son décès la société de production tentait de se servir de son image, il serait attaqué par ses avocats. Une bonne manière de mettre la pression à la franchise cinématographique.
Et cette déclaration de Robert Downey Jr. est symptomatique d'une crainte de l'industrie cinématographique de la place que l'intelligence artificielle pourrait prendre dans le milieu. Beaucoup d'acteurs ont exprimé leur inquiétude concernant les IA et à la possibilité que des images d'IA soient faites d'eux sans leur consentement.
Il y a de quoi être inquiet. C'est vrai que Hollywood, les grands studios se sont servis de technologies ces dernières années pour ressusciter les vedettes décédées générées par des images de figurants dans des scènes de bataille ou encore pour assister à l'écriture de scénarios. Le développement de l'intelligence artificielle va faciliter ces pratiques et les rendre moins chères. L'industrie est en droit de se poser des questions sur l'utilisation de ces nouvelles technologies.
Les exemples de débordement commencent à arriver. On peut par exemple penser à Scarlett Johansson qui s'est opposée à ce qu'OpenAI utilise sa voix plus tôt cette année. Bien qu'ils aient nié l'avoir utilisée, la voix nommée Sky était fortement ressemblante à celle de l'actrice et a été supprimée par l'entreprise. Même si la reproduction d'images d'acteurs existait déjà avant le début de l'émergence de l'IA avec le morphing, il est vrai que celle-ci prend une place de plus en plus importante.
Bien avant que l'intelligence artificielle ne donne la possibilité de créer des deepfakes, les spécialistes en effets spéciaux pouvaient déjà réaliser des modifications sur les visages. Le procédé utilisé est alors celui du morphing. Pour faire simple, le morphing c'est un effet spécial utilisé dans le cinéma ou en photographie qui consiste à transformer un sujet en un autre sujet pour donner une image plus concrète. C'est un procédé très utile pour reproduire les visages.
Imaginons qu'on souhaite remplacer le visage de Ben, notre technicien du jour, dans un film par celui d'Alexandre. Grâce à des logiciels spécialisés, on détermine quels sont les points essentiels et caractéristiques du visage de Ben, puis de retrouver sur le visage d'Alexandre ces mêmes points. Ensuite, le logiciel bricole pour créer une animation qui permet de passer d'un visage à l'autre. En fait, on crée un masque numérique de Ben pour le mettre sur le visage d'Alexandre.
C'est une technique dont on retrouvait déjà des prémices à l'époque où les films étaient encore en argentique. C'est depuis le passage au numérique que la pratique s'est développée, démocratisée et popularisée. D'ailleurs, la première fois que le terme morphing est utilisé remonte à 1982, lorsque le chercheur chercheur au New York Institute of Technology, Tom Brigham, l'utilise dans une vidéo où une femme se transforme en lynx.
Pour l'anecdote, l'arrivée du morphing en France n'est pas due au cinéma, mais bien à la publicité. C'est dans une pub pour la marque Perrier que les Français découvrent pour la première fois le morphing. Bref, le morphing, c'est très pratique. On peut ressusciter des acteurs morts, mais aussi modifier l'expression des acteurs. Par exemple, quand elle ne colle pas bien à l'émotion voulue.
On retrouve ce processus de création dans des œuvres comme Star Wars, où le morphing permet de donner vie à des personnages après le décès d'un interprète. On peut penser notamment au personnage de la princesse Leia, interprétée par Carrie Fisher. L'actrice est décédée en 2016 au moment du tournage du 9e film de la saga, L'Ascension Skywalker. Pour préserver la cohérence du scénario, le morphing a été utilisé pour recréer le personnage de la princesse Leia et ainsi l'inclure dans les scènes où elle devait apparaître.
Plus récemment, dans la dernière saison de Stranger Things, on a pu voir Eleven, le personnage principal, dans les scènes du passé. Étant donné que l'actrice Millie Bobby Brown a grandi depuis la première saison, les créateurs ont utilisé la technique du morphing et une technologie de rajeunissement appelée de-aging, qui ont permis de restituer le personnage quelques années plus tôt, devenu aussi un outil incontournable dans le cinéma.
Ces techniques ont déjà créé des débats autour du côté éthique de cette technique. Un réalisateur change l'expression d'un acteur car elle ne correspond pas vraiment à ce qu'il veut sur le montage final. Est-ce que c'est vraiment encore la performance de l'acteur? Est-ce que le réalisateur a le droit de toucher l'expression de l'acteur? Est-ce ce que le film prime ou est-ce l'acteur a un droit de regard sur la création de l'auteur? Autant de questions qui se posent déjà avec le morphing et qui vont continuer à se poser avec l'intelligence artificielle.
Mais avant d'en venir à cette partie de l'histoire, on va faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Now and Then, une musique écrite par John Lennon pour Paul McCartney en 1978, qui est sortie seulement le 2 novembre 2023. One, two. Thank you.
qui a été reconstruite grâce à une cassette audio intitulée « Pour Paul », enregistrée par Lennon peu avant son assassinat à New York en 1980. Paul McCartney a dit à France Info, je cite, « Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l'IA pour mixer l'enregistrement. Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles. C'était une maquette de John à partir de laquelle nous avons travaillé. » Vous êtes toujours sur Radio Toucan 91.9 FM ou sur le site radiotoucan.fr. Et maintenant, revenons à notre zoom sur de la semaine à propos des IA et du cinéma et des controverses autour.
Alors parlons intelligence artificielle et régulation. On le sait, l'IA fait partie intégrante de notre quotidien, mais la question se pose, existe-t-il aujourd'hui des lois pour encadrer cette technologie ? Eh bien, l'Union européenne travaille activement sur des régulations pour prévenir les dérives.
En effet, l'IA a été abordée, l'Union européenne a mis en place des conditions pour que les données, moteurs de l'intelligence artificielle, circulent plus facilement dans l'UE et puissent être utilisées sans porter atteinte à la vie privée des Européens. Un règlement qui serait entré en vigueur en août 2024, qu'ils font porter aux droits fondamentaux de minime à inacceptable, un classement de ce qui est tolérant ou non, avec plus ou moins de contraintes, voire une interdiction pour les technologies les plus controversées, considérées comme inacceptables, qui prend en compte la notion sociale, la reconnaissance physique à distance ou à temps réel.
Une pétition contre l'IA écrite par le compositeur Ed Newton Rex le mardi 22 octobre a été signée par plus de 11 500 artistes. Parmi eux, on retrouve ABBA, Tom York de Radiohead et Julianne Moore. La pétition retranscrit les inquiétudes de ces artistes vis-à-vis des potentiels ou avérés dangers et les dérives de l'IA pour leur profession. Ed Newton Rex dénonce dans son texte que les entreprises spécialisées utilisent sans les payer des contenus protégés par des droits d'auteur pour nourrir les algorithmes qui ont besoin de ces données pour en générer de nouvelles, dénonçant un procédé déshumanisant pour les artistes.
Une pétition contre l'IA... En Californie, une loi soutenue par Pedro Pascal, Jeanne Fonda et Mark Hamill, qui a visé à réguler l'IA, a été bloquée par le gouvernement Gavin Newsom. Le 2 mai 2023, un séisme secoue Hollywood, entraînant une grève des acteurs et actrices suite à celle des scénaristes. Cette action décide à l'unanimité par le syndicat SAGAFTRA vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle après le refus de renouveler les accords avec l'AMPTP, dont l'expiration était prévue le 12 juillet 2023. La grève entraîne l'arrêt immédiat des tournages et complique les promotions des films et séries. Les négociations entre les syndicats et Hollywood suspendent le 11 octobre et reprennent le 24 octobre 2023.
En France, les comédiens de doublage expriment également leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Des figures comme Dorothée Pousseau, la voix off de Margot Robbie, ou encore Vanellope du monde de Ralph, et d'autres artistes comme Paul Bourne, Brigitte Lecordier et Benoît Allemann, se mobilisent avec le hashtag « Touche pas à ma VF » pour sensibiliser le public. Leur message a atteint plus de 9 millions de vues sur Instagram, soulignant la gravité de la situation, à savoir que le doublage, c'est 15 000 employés en France. Tout de suite, nous écoutons un court extrait du réel en question qui provient de l'Instagram « Touche pas à ma VF ».
Bonjour, je suis Brigitte Lecordier.
Donald Reignoux.
Dorothée Pousseau.
Adeline Chetaille.
Lou Howard.
Pascal Chemin.
Lina Lacombe.
Je suis comédienne.
Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman.
Pumba, Hakuna Matata.
Samuel L. Jackson.
Freezer. Jim Carrey.
Marc Simpson.
Je suis la voix française de Mère Simpson.
Et notre métier pourrait totalement disparaître.
Ils vont briquer le doublage.
Espèce d'enfoiré.
Non. C'est pas une blague.
Si l'intelligence artificielle nous remplace,
ce sont plus nos voix.
Des voix humaines que vous entendrez dans les films.
Mais des voix de robots
qui auront été générées par le vol de nos voix.
Sans notre consentement.
L'usage de l'intelligence artificielle pour reproduire l'image ou la voix d'acteurs dans les films sans leur consentement pose des questions juridiques majeures en matière de droit d'auteur, de droit à l'image et protection des données personnelles. En France, le droit à l'image inscrit dans le Code civil protège les personnes contre l'exploitation commerciale non consentie par leur image. Aux États-Unis, le droit de publicité impose des règles similaires.
Ainsi, l'utilisation d'IA pour manipuler ou recréer l'image d'un acteur sans autorisation pourrait violer ses droits, surtout si elle reproduit une performance protégée par le droit d'auteur. Ça a été le cas pour Scarlett Johansson, où sa voix avait été utilisée pour une publicité d'application mobile.
Depuis 1994, en France, il est interdit de montrer une vidéo ou utiliser l'image d'une personne sans son consentement, surtout à des fins commerciales. La sanction peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Mais qu'en est-il pour les œuvres satiriques ou artistiques ? Eh bien, ces derniers bénéficient d'une certaine protection sous la liberté d'expression. Cela signifie qu'il est souvent permis d'utiliser des deepfakes pour la parodie ou la critique, tant que cela ne nuit pas à la réputation de la personne concernée.
Cependant, le droit à l'image reste en vigueur. Si contenu est jugé offensant ou trompeur, il est possible que la personne puisse engager des poursuites. Chaque cas est unique et les changements peuvent varier. Vous êtes prêts autour de la table ? Selon vous, si un réalisateur modifie une émotion sur le visage d'un acteur, est-ce vraiment encore une performance de l'acteur ?
Je t'avoue que j'ai un peu de mal avec cette idée, étant donné que, en fait, juste, c'est tout simple, mais un film se prépare en amont, avant le tournage déjà, et je trouve ça dommage en fait de modifier une prestation d'un acteur ou d'une actrice, sachant que c'est un travail qui aurait pu être fait en amont, et c'est un peu la facilité. La phrase facile, c'est on verra ça en post-prod. Et je trouve qu'il y a un peu de ça où ça déshumanise à la fois le travail ça désacralise même le travail de l'acteur, de l'actrice, où c'est un travail qui demande une formation très longue. Et ça efface assez rapidement, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table.
Alors moi, j'ai un avis un peu particulier et très réfléchi, parce qu'en tant que musicien, la question s'est posée déjà depuis 2-3 ans, et même en tant que créateur de contenu. Et pour moi, il y a toujours ce truc, c'est comme, en fait, pour beaucoup de choses, quand on parle de performance, de à quel point on fait le travail en musique électronique, on a ça avec les DJ. C'est pas des IA, mais c'est à quel point le matériel, en fait, remplace ce qu'on fait, et c'est toujours la même question. Comme pour les caissiers avec les caisses électroniques, alors que c'est pas de la création, en fait, on en revient toujours à cette question de... Est-ce que on fait ces œuvres-là, parce que là, c'est de l'art, et c'est là que se pose la question, pour la performance ou pour le résultat ? Étant très à gauche pour les auditeurs qui nous écoutent et puis vous qui le savez très bien, moi ma réponse elle est toute trouvée, hein. Moi quand je fais de l'art, je préfère que ça soit une performance, mais ce qu'on nous demande aujourd'hui en tant que créateur de contenu, peu importe un film, TikTok, peu importe le niveau, on nous demande un résultat. On s'en fiche que tu sois le meilleur à la guitare. Est-ce que les gens viennent te voir ? On s'en fiche que tu sois le meilleur acteur. Est-ce que ton visage fait vendre ? Donc la question d'un point de vue des professionnels et des gens qui sont dans l'économie de ce point de vue-là, il est absolument pas sur la performance, et pour moi le problème il est là, et la réponse elle est sur la monétisation de l'art en fait. Tant que le travail est nécessaire pour que des gens en vivent, on aura besoin d'eux et on se plaindra du fait que ils risquent de perdre leur emploi, mais tant qu'on encourage au résultat et pas à la création artistique, on entend très vite des discours de « Ah mais cette forme d'art elle sert à rien, ce que tu fais c'est pas productif, ça rapporte pas d'argent ». En fait pour moi le débat est plutôt là-dessus, parce qu'en fait on ne résoudra pas ce problème de l'IA qui est un problème éthique qui peut se discuter en fonction du milieu autour duquel on est et dans la société dans laquelle on vit. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de est-ce que c'est la performance qu'on veut, est-ce que c'est vendre qu'on veut ? Et pour l'instant, la réponse est plutôt dans le fait de vendre, donc on sait très bien ce que les studios vont penser, quoi. Je te rejoins assez, Alexandre, sur cette question de est-ce qu'on vient chercher de la performance ou un résultat dans la question du cinéma, parce que je parlais un peu plus, parce que la musique, c'est plutôt ton domaine, mais sur la question du cinéma, c'est vrai que moi, ça m'interroge aussi, que ce soit la question du morphing ou de l'intelligence artificielle. Moi, j'avoue que quand je vais au ciné, de la même manière que quand j'écoute de la musique, c'est pour de la performance, et en fait, je ne m'attends pas à avoir quelque chose de parfait, au contraire, et je trouve que pour moi, l'authenticité et la sincérité d'une performance vient du fait qu'il y a des petites choses qui couacent, des petites choses on se rend compte d'eux, il y a des choses qui nous interpellent, et je suis pas certaine que ça, que soit le morphing ou l'intelligence artificielle soit capable justement de retransmettre ça, quand bien même il y a un énorme travail de machine learning, hein. On sait comment ça fonctionne, on vous en a déjà parlé sur Radio Toucan, de comment les intelligences artificielles se nourrissent de contenus déjà existants pour pouvoir apprendre et réapprendre et s'améliorer. Et
en fait, je suis pas certaine que, effectivement, déjà les gens viendraient chercher du produit final, même s'il y a cette histoire de la monétisation, de ce qui fait vendre, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à cette histoire de performance, à cette sincérité, à cette authenticité. Donc, moi, je te rejoins un peu, bah, Ben et Alexandre, je vous rejoins sur ce truc de, ouais, en fait, le débat, il est pas que sur l'usage de l'intelligence artificielle, in fine. Moi je suis totalement d'accord avec vous trois, sincèrement. En fait, ça donnerait un peu une histoire d'uniformisation. Et c'est ça qui serait... En fait, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, mais si je réponds d'un point de vue de mon instinct en tant qu'humain, enfin, on vient pas au cinéma, ouais, pour voir des performances parfaites et qui sont toutes pareilles. Et l'IA, on sait très bien comment est-ce qu'elle marcherait. Enfin, ça serait, comme je l'ai dit, une histoire d'uniformisation, alors que ce qu'on veut, c'est cette unicité de chaque acteur. Que ce soit parfait ou pas, peu importe. Voilà.
Alors, je vous rejoins quand même sur ce point-là. Mais juste pour dire que oui, vraiment, aujourd'hui, en fait, on est plus dans une obligation de résultat, en termes, que ce soit vraiment dans en termes artistiques. Donc, par exemple, pour la production de films, si tu produis un film à 4 millions et que tes recettes, elles sont à 1 million derrière, t'es absolument pas rentable. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, t'es vraiment obligé d'avoir ce qu'il faut pour payer, parce que sinon, bah, tu vas devoir licencier tout le monde, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. On nous dit que c'est moins cher d'utiliser les IA, mais à quel prix ? Récemment, c'est pas par rapport au cinéma, mais c'est par rapport aux jeux vidéo. Il y a une grosse crise post-Covid parce qu'il y a eu des gros recrutements, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué aux jeux vidéo pendant le Covid. Et bah, en fait, les gens sont retournés au travail depuis, donc c'était un mauvais pari de la part de cette économie-là. Et en fait, au niveau de l'IA et du cinéma, je trouve que c'est pareil. C'est à quel prix on va précariser le milieu artistique qui est déjà très précaire pour faire des économies de production. Et je trouve que ça implique aussi ça rajoute aussi la question du respect de certaines personnes. Parce que l'IA a été utilisée aussi pour faire revenir, du coup, comme Alex et Marie nous expliquaient, pour faire revenir des actrices qui étaient décédées. Et ça a été bien fait des fois, et d'autres, beaucoup moins. Donc voilà, je lance le sujet. Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça ?
Est-ce que tu as des exemples à nous donner de moments où justement ça a été réutilisé ? Alors, vous parliez de Leia dans Star Wars, dans l'Ascension de Skywalker, des moments où ça a été mal utilisé, je crois, dans Marvel, quelque chose comme ça.
C'est un DC, c'est dans le dernier Flash, où effectivement il y a une scène finale où ils montrent tous les univers parallèles pour faire clairement du fanservice. Et il y a des exemples un peu anodins, entre guillemets, où on voit Nicolas Cage en Superman alors que le film n'a jamais été produit, mais du coup. C'est du fanservice et c'est maladroit, mais ça passe, j'ai envie de dire. Là où c'est un peu plus gênant, c'est par exemple l'utilisation de l'image de Christopher Reeve, qui est du coup un acteur qui a interprété Superman dans les années 60 à peu près, et qui a très mal vécu en fait ce tournant de sa carrière et qui en a souffert au niveau de sa santé mentale pendant très longtemps et qui a été réutilisé sans... qu'on questionne en fait ses ayants droit, et je trouve que ça pose une bonne question sur le droit à l'image au-delà de la vie.
En effet, une question de moralité là pour le coup, qui on peut vraiment s'interroger.
Alors pour moi, vraiment, l'utilisation de l'IA devrait vraiment être exceptionnelle, c'est-à-dire que là c'est vraiment, voilà, imaginons tu produis un film et un de tes acteurs décède pendant le tournage, bah, ça devrait être exceptionnel. C'est vraiment une utilisation pour sauver un peu le film, quoi.
Ça me fait penser notamment à l'utilisation qu'il y avait eu, c'était du morphing par rapport à son frère, dans le dernier Fast and Furious où Paul Walker apparaît. C'est une des seules, effectivement, utilisations qui me paraît justifiée à mon goût, parce que c'était quelqu'un qui était investi dans le projet, qui, si n'avait pas eu cet accident-là, aurait terminé ce projet. Donc ça me paraît justifié, effectivement, mais pour d'autres points, même pour Carrie Fisher, je crois, si je dis pas de bêtises sur son nom, je trouve ça un peu limite parce que le rôle a quand même été refoutu au forceps dans le scénario pour la garder. J'ai un peu de mal avec ça.
Moi, je suis d'accord que ça devrait être très rare, donc dans ces moments-là où il y a un acteur qui décède et qu'on veut la suite avec cet acteur. Mais ce que je peux trouver bête, du coup, dans ces situations de faire servir l'IA pour des acteurs qui sont décédés, c'est aussi l'idée que dans tous les milieux artistiques, que ce soit l'art, le cinéma ou quoi que ce soit, il y a cette idée d'émergence, d'effervescence à chaque fois, de nouveaux artistes, et tout simplement,
Il y a aussi une part de ne pas laisser la place aux nouveaux artistes, et c'est un peu triste à dire, mais chacun fait son temps, et à force du coup de vouloir laisser les gens rester indéfiniment, bah on, peut-être que ça pourrait aussi bloquer la place aux nouvelles personnes qui veulent se faire une place dans le milieu.
Moi, pour un peu contredire je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, évidemment, parce que c'est le premier avis que j'ai donné. Mais j'ai un exemple qui peut aider à contrecarrer un peu cet avis et à mettre un peu de nuance, parce que c'est important aussi. C'est de se dire que dans les milieux underground, moi je pense à la musique, mais ça marche aussi pour pas mal de clips musicaux, dans des milieux un peu plus underground et tout ça. Il y a beaucoup de réutilisation de choses qui ont déjà été faites. En musique, vous avez tous vu le reportage sur DJ Mehdi qui ressemble des musiques déjà utilisées. Et j'ai pas vu grand monde être choqué, sauf que c'est à peu près la même chose que s'il avait utilisé une IA pour prendre des bouts de pour créer des bouts de morceaux et qu'il en avait fait quelque chose. Il y a toujours ce truc de, pour moi la limite elle est pas dans à quel point, elle est dans le fait de l'énoncer et de faire avec le système monétaire qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en fait si on ne précarise pas des gens pour ça économiquement, je fais pas partie des gens qui vont défendre le droit d'auteur si fort que ça, parce que pour moi l'art c'est à tout le monde et tout le monde devrait le partager. Et faut pas oublier qu'il y a ça aussi dans beaucoup de cultures et de formes de création, de le fait de réutiliser des choses ou d'utiliser des choses qui existent même pas à la base mais qui nous appartiennent pas, se réapproprier quelque chose d'autre ou s'approprier une IA. Là où c'est dangereux, c'est toujours, et en fait c'est là où on vient toujours au même point, c'est quand ils s'en plaignent dans le TikTok, c'est notre métier va disparaître, et c'est pas seulement parce qu'ils peuvent plus le faire, parce qu'ils pourraient continuer à le faire, c'est parce qu'ils ont besoin de manger. Et pour moi, l'utilisation de l'IA, elle doit être limitée tant que, on ne mettra pas de sécurité aux gens qui sont concernés par ça. Le jour où t'as aucun risque de perte monétaire pour les gens qui sont dans ces milieux-là, en vrai, on s'en fiche. Enfin, à moins que ça soit pour t'insulter, mais si on utilise ta voix, typique nous à la radio, si nos voix sont utilisées pour faire des émissions en plus, mais que ça nous empêche pas de travailler. Tant qu'on surveille, qu'on est d'accord, je pense qu'on peut se donner aucune limite. Le problème, il est toujours dans le fait de respecter les gens, que ce soit en termes d'économie et en termes, évidemment, de respect humain, mais ça, c'est toujours la même chose.
Finalement, comme on le sait, l'IA prend une place de plus en plus importante dans le domaine du cinéma. Elle peut nuire au futur de certains comédiens, comme les doubleurs. Et entre la menace des deepfakes, l'utilisation non autorisée d'images et de voix d'acteurs, la nécessité de protéger les droits sont en jeu. La discussion sur la régulation de l'IA n'a jamais été aussi pertinente qu'actuelle.
Merci à Alex et Anaïs pour ce zoom sur qui nous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette confrontation de l'IA dans le cinéma et de toutes les difficultés que ça implique. Maintenant, il est temps de faire le dernier flash info de votre labo. En raison de fortes pluies, l'alerte rouge météorologique a été déclarée dans la région de Valence, en Espagne. C'est les cadavres de 62 personnes qui ont été récupérés après des fortes crues. On annonce ce mercredi 30 octobre, les services de secours. D'autres régions sont touchées, telles que l'Andalousie et Castille-la-Manche. Le chef du gouvernement régional s'est exprimé au sujet de ces inondations avec, je cite, nous faisons face à une situation sans précédent que personne n'a encore jamais vue. Information nationale. Surpopulation carcérale. La France a battu un nouveau record s'élevant à 79 131 détenus. La France figure parmi les pays européens avec la plus grosse population carcérale. En un an, ce sont près de 5300 personnes supplémentaires qui ont été incarcérées dans les prisons françaises, d'après le ministère de la Justice. Environ 3800 détenus sont contraints de dormir sur un matelas au sol, car les prisons de France ne comptent que 62 279 places opérationnelles. Information locale, une nouvelle candidature a été déposée pour les plages du débarquement, figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faudra attendre encore 2 ans, car ce rêve de la Normandie est en attente depuis 2008. En 2017, ce rêve aurait bien pu être exaucé car l'initiative avait été soutenue par le célèbre milliardaire américain Christopher Forbes, fondateur du média Forbes, mais cela n'a malheureusement rien changé. Les Normands devront attendre encore un peu avant d'avoir leur rêve se réaliser. Votre soirée est couverte et la température descendra à 12 degrés. Pour votre journée de demain, le soleil fera enfin son retour avec une maximale à 18 degrés. La température ressentie sera plus douce que la température réelle. Info trafic, le périph' nord est toujours bouché, mais le trafic reste fluide, tout autour de Caen.